Le machine learning consiste à laisser la machine générer un code informatique plutôt que ce dernier ne soit écrit par un humain. Il est encore souvent supervisé, c'est-à-dire que le jeu de données utilisé pour entraîner l'algorithme est étiqueté, mais on rencontre de plus en plus souvent des modes d'apprentissage non supervisés. D'après Emmanuel Benazera, mon invité dans ce podcast, et Senior Research Engineer in Artificial Intelligence à Jolly Brain, le machine learning sert principalement deux objectifs. Automatiser les tâches récurrentes, comme par exemple modérer les contenus d'un réseau social, et à rendre possible des choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Avec Emmanuel, nous parlons de ces réseaux de neurones qui, de manière invisible, ont transformé notre quotidien. Emmanuel, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, je suis très heureux de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de machine learning. Quelle est ta définition du machine learning?
Ok, alors machine learning, c'est l'anglicisme. En français, c'est apprentissage automatique, ce qui est bien aussi. Alors, l'apprentissage automatique, on peut dire que ce sont les algorithmes qui ont la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés. On pourra aller un petit peu plus loin dans les définitions ou le regarder par différents prismes.
D'accord. Donc, si j'essaye de me représenter comment ça fonctionne ou de quoi tu as besoin pour entraîner tes algorithmes, je dois disposer de données. Donc, il te faut un dataset, donc un jeu de données, j'imagine, c'est en français, pour entraîner justement qu'on appelle un modèle. Alors, sur tout ça, j'ai des notions assez vagues sur lesquelles peut-être tu pourrais m'expliquer plus précisément ce que c'est et à quoi ça correspond.
D'accord. Alors, on va regarder le machine learning comme l'écriture automatique de code. C'est-à-dire, au lieu d'écrire un programme informatique avec un langage informatique, le Java, le C, le Python, ce qu'on veut, on va faire apprendre ce modèle par la machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? C'est pas magique, mais presque. C'est, on va faire écrire le programme par les données. C'est-à-dire, on donne des données en entrée, on donne des données en sortie, et on demande à la machine de faire la correspondance entre les deux, par l'exemple. Alors, c'est ça, la programmation par les données, et c'est donc ça, le machine learning. Alors, effectivement, puisqu'on n'écrit plus le programme à la main, on le remplace par ce qu'on appelle un modèle. C'est comme un programme informatique, mais ça n'est pas écrit dans un langage informatique. On pourra discuter de comment c'est écrit par la machine. Ça n'est pas écrit dans un langage informatique directement. Et on va avoir besoin, pour la programmation par les données, pour obtenir ce modèle, on va avoir besoin de données, effectivement, en entrée et en sortie.
Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport aux données que j'ai en entrée? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être n'importe quoi et que si je veux entraîner un modèle, je vais l'entraîner sur un jeu de données qui auront une spécificité.
Le machine learning, je vais répondre un petit peu à côté, mais je pense que ça va donner une réponse. Le machine learning, c'est quelque chose de relativement universel. C'est une évolution de l'informatique relativement universelle. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sent bien que les humains ne vont pas écrire les programmes informatiques avec leurs petites mains, avec des langages particuliers jusqu'à la fin des temps. On sent bien qu'à dans le fond de l'automatisation, la machine doit être capable d'écrire ses propres programmes. Alors, est-ce que les données sont spécifiques? Dans le fond, comme c'est relativement universel, les données ne sont pas spécifiques. Je peux mettre ce que je veux comme données, je peux mettre des images d'abeilles d'un côté et des images de chats de l'autre côté, et je peux demander à transformer des abeilles en chats si j'ai envie. Ça n'a pas de sens comme ça, mais je peux. Ça n'a pas de sens réel. Alors, ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'évidemment, on veut solutionner des problèmes pratiques, et donc, on va mettre de chaque côté, en entrée et en sortie, des données qui ont du sens. Alors, par exemple, les données qui ont du sens, dans un exemple très simple de savoir reconnaître des chiens et des chats, on va mettre des données qui sont des chiens et des chats en entrée, deux répertoires d'images pour faire simple, hein, des images de chiens et des images de chats. Mais en sortie, on va donner juste deux nombres, un qui dit c'est un 1 c'est, si c'est un chat et 0 si c'est un chien. Et on va faire apprendre la correspondance à la machine entre les images de chat d'un côté et le 1 et les images de chien d'un côté et 0 de l'autre. Voilà. Et donc effectivement, tu as raison, on peut pas mettre ça n'a pas de sens de mettre n'importe quoi, mais en poussant un petit peu, on peut faire des choses assez folles, parce que c'est là le but de ma réponse, l'objectif de ma réponse, c'est que les entrées et les sorties ne sont pas réellement spécifiées en tant que telles.
Ok. Alors, dans ton exemple, déjà, ça soulève deux questions de mon côté. Un chien, ce sera 0 et un chat, ce sera 1, mais j'imagine que, en fait, on n'a jamais 0 ou 1. On a quelque chose qui tend vers le 0 ou quelque chose qui tend vers le 1 en sortie. Et deuxièmement, avant d'avoir ce 0 ou ce 1 en sortie, il faut que je spécifie justement au modèle, à l'algorithme, je ne sais pas comment le définir, ce qu'est un chat ou ce qu'est un chien et comment le reconnaître peut-être. Enfin, pas comment le reconnaître, ça il le fera peut-être par lui-même. Mais comment est-ce que, à terme, la machine sait reconnaître un chat ?
Pour les algorithmes actuels, qui sont les plus plébiscités, qui sont connus sous l'égide de deep learning, bon, apprentissage profond, en français, mais le principe est le même pour les autres algorithmes. Comment ça fonctionne? On a en entrée des images, vraiment des images, des pixels. C'est comment c'est fait une image? C'est une matrice, c'est un tableau dans lequel il y a des valeurs qui correspondent à la couleur de chaque pixel. Donc c'est vraiment ça, l'entrée c'est ça. Et on en a pour les chiens, on en a pour les chats. Donc on spécifie pas ce que c'est un chien ou un chat. Il est quelque part déjà spécifié, au sens où les pixels le représentent. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on les sépare. On met l'un dans un répertoire, l'autre dans l'autre. Hein, on sépare dans deux répertoires différents. Donc c'est ça qu'on donne à l'algorithme. L'algorithme là-dessus, il est générique, c'est lui qui va déterminer à l'intérieur des pixels qu'est-ce qui est propre à un chat et qu'est-ce qui est propre à un chien. Ça, on ne lui donne pas. On fait juste cette séparation en deux répertoires. En sortie, tu as raison, le réseau de neurones, en l'occurrence, ou l'algorithme de machine learning, il va pas sortir des entiers, il va pas sortir 0 ou 1. Mais pour un informaticien, c'est pas très difficile de raboter un nombre pour le ramener à une valeur ou l'autre. Donc en fait, on force la machine à sortir quelque chose entre 0 et 1, par exemple. Et on va raboter à la valeur la plus proche. Hein. Et ça, c'est suffisant en termes d'opérer une correspondance entre d'un côté ces valeurs pixels, qui sont pour le coup des entiers, et en sortie ce 0 ou ce 1.
Mmh. Tu évoques le terme de réseau de neurones. Et deuxièmement, tu as en entrée, donc ça c'est pour la partie d'entraînement de ton modèle, où tu vas avoir deux dossiers, un avec les chiens, un avec les chats. Une fois que l'entraînement est terminé, j'imagine que tu vas l'utiliser, ce modèle. Et là, il ne s'agira plus d'entraînement. Et donc, avec l'entraînement qu'il a eu, si je lui soumets n'importe quelle photo de chat ou de chien, il est normalement à même de les différencier.
C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, quand j'ai fini l'apprentissage de mon modèle, avec tout ce que ça implique, ça veut dire que j'ai fini l'écriture automatique de mon code de différenciation des chiens et des chats, je prends une image de chien ou de chat, je la passe en entrée et je vais obtenir en sortie un 0 ou un 1, avec très souvent une information, pour ce type de modèle, une information supplémentaire qui est une confiance dans la prédiction qui a été effectuée, c'est-à-dire que en plus du 0 ou du 1, on obtient par exemple ces 0, donc un chien, avec 95% de confiance. Alors voilà, vers ce terme confiance, ça vaut ce que ça vaut, mais on a en général cette information supplémentaire. La vraie question maintenant qu'on peut se poser, c'est si je prends une image de tracteur, et je passe l'image de tracteur à mon classifieur, à mon détecteur de chien et de chat, qu'est-ce que j'obtiens? Ben j'obtiens n'importe quoi, d'accord? Puisque mon modèle, mon programme informatique créé automatiquement, n'a pas été conçu pour traiter des tracteurs, il ne connaît que les chiens et les chats, et donc il va chercher les chiens et les chats dans le tracteur, et bon gré mal gré, il va sortir avec un 0 ou un 1 à la fin, parce que il faut bien comprendre aussi que dans la formalisation que je vous ai donnée là, dans l'exemple que j'ai donné, il n'a pas moyen de faire autrement. Il ne peut pas dire 2, je ne sais pas. Hein, voilà. Mais ce qui est important, et je veux insister là-dessus, c'est que ce type de programmation automatique via machine learning, en général, produit des programmes informatiques ou des modèles qui ne savent pas dire « je ne sais pas ». D'accord ? On peut les entraîner à savoir le dire, mais ça n'est pas si simple que ça. Donc, ils savent faire, comme tout programme informatique, que ce qu'ils ont été, que ce pourquoi ils ont été conçus.
Mais j'imagine que dans ces cas-là, l'indice de confiance doit être relativement bas.
Alors, tu as raison, l'indice de confiance doit être relativement bas. D'ailleurs, l'indice de confiance doit être bas sur les deux éléments, c'est-à-dire aussi bien pour l'élément chien et l'élément chat, mais néanmoins, le modèle ne va pas venir avec, en disant qu'il ne sait pas. Il va quand même choisir l'un ou l'autre. Ça va être plus élevé, l'un ou l'autre. En fait, ça va être le degré par lequel le tracteur ressemble plus à un chien ou à un chat, bien que ça n'ait aucun sens.
Alors, j'imagine que c'est pas le seul cas bordure. Si je lui envoie une photo où il y a un chien et un chat sur la photo.
Ouais, très bon exemple, tout à fait. Bah, c'est pareil. Il va avoir une confiance relativement élevée, mais il va choisir l'un ou l'autre. Alors, ça, c'est pareil. Après, on peut modifier le modèle pour qu'il sache faire plus de choses, mais ça complexifie le programme informatique. Mais dans l'esprit, si le modèle ne sait que donner un tag chien ou chat, il va choisir l'un des deux. Donc, si le chat, il est peut-être plus devant la caméra que le chien, il va peut-être choisir le chat. Hein. Donc, on ne gouverne pas ce qu'on va appeler l'attention du modèle, c'est-à-dire le modèle visuel, là où il jette son dévolu, quelque part.
Ça me fait penser à un langage typé où, en entrée, il faudrait lui donner un type particulier qui est bien structuré, c'est un chat ou un chien, et pas un chat ou un et un chien, ni autre chose que ces valeurs-là, pour avoir quelque chose de valable en sortie.
Ouais, c'est une très bonne analogie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les modèles sont typés, mais ils sont typés, on peut dire, de façon sémantique, en fait. Alors, on peut les typer de façon un peu plus précise, on peut dire il faut que les pixels ils soient entre 0 et 255 dans chacun des trois channels de l'image, etc. On peut penser aussi que si on apprend un modèle que sur des images en noir et blanc, eh ben, il saura pas bien traiter des images en couleur. Il saura les traiter parce qu'il y a quelque chose de commun, mais enfin, bon, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, néanmoins, c'est pas un blocage, cette histoire de si je passe un chien et un chat en même temps. On peut toujours étendre le scope du modèle. Alors, il y a des types de modèles, toujours pareil, hein, des types de programmes informatiques réalisés automatiquement qui vont non seulement donner un tag, c'est-à-dire un 0 ou un 1 en fonction du chien et du chat, mais qui vont aussi donner les coordonnées de la localisation du chien et du chat. Et donc, dans ce cadre-là, si j'envoie une image à un modèle comme ça, avec un chien et un chat, et bien, je vais obtenir deux boîtes, hein, la localisation de deux boîtes correspondent au chien et au chat, ainsi que l'étiquette qui va sur chacune des boîtes. Voilà. Donc là, et là, on est monté à un niveau de sémantique un petit peu plus élevé, où du coup, je n'ai plus à me préoccuper du nombre d'éléments qui est dans mon image, par exemple. Mais j'ai toujours certaines choses à respecter. Hein. Si je mets un tracteur, j'obtiens n'importe quoi, c'est toujours pas.
Dans l'exemple, il me fait penser à ce que j'ai sur mon appareil photo, par exemple, où en filmant quelqu'un, j'ai repéré que ça, c'était un visage. Il arrive à repérer les visages, donc ça, c'est typiquement une application d'un modèle de machine learning.
Alors, c'est vrai. Néanmoins, je pense que... Il faudrait que je vérifie. Mais je pense que sur les téléphones, c'est un algorithme. C'est pas écrit à la main. C'est pas un raisonnement. Mais il faudrait vérifier. La raison, c'est que détecter un visage, quand on sait qu'il est prêt, etc., c'est pas très difficile. Enfin, disons, c'est pas très difficile. Il y a des algorithmes qui sont plus rapides que le réseau neuronal. Mais c'est à vérifier. Un réseau neuronal, par contre, est beaucoup plus robuste. C'est-à-dire qu'un modèle appris par machine learning va pouvoir traiter un nombre de cas de déficience d'illumination, de mouvement de lumière et de situation qui est beaucoup plus large. Donc peut-être ce sont des réseaux de neurones, il faudrait vérifier.
Ce que j'avais entendu aussi, c'était que là tu me parles d'un type d'apprentissage où finalement en entrée, tu donnes des types d'images que tu as déjà trié. Et à la limite, à part faire ce tri-là, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Par contre, moi, j'avais entendu parler justement d'entraîner un algorithme à dire on te donne des chiens et des chats en entrée, et puis on va te donner un tag pour te dire c'est un chat ou un chien. Alors, c'est à ça que correspond le répertoire, comme tu l'as appelé. C'est-à-dire que c'est juste en fait un label que je place c'est sur ça. Ces images pour dire ça, c'est un chien et ça, c'est un chat.
C'est ça, tout à fait.
Ok.
Alors, c'est un nom. Ça s'appelle l'apprentissage supervisé. Mm-hmm. C'est parce qu'il y a supervision via le label. C'est-à-dire qu'on guide, il y a un guide qui est le label. D'accord? Mais il y a d'autres façons d'apprendre. Et sans rentrer dans les détails, juste pour faire sentir la chose. Les humains, on n'apprend pas tout de façon supervisée. Si je montre un bateau à ma fille et je lui dis ça c'est un bateau, bon, c'est un peu une façon supervisée. Mais quand elle se casse la figure, qu'elle se relève, qu'elle s'est fait mal, qu'elle a compris qu'il fallait faire ceci ou cela, c'est pas moi qui lui ai dit, elle est un peu supervisée par elle-même. Donc là, on va appeler ça plutôt non supervisé. C'est-à-dire que, hein, donc il y a deux grandes classes d'apprentissage, supervisé et non supervisé. Là, on parle de supervisé. C'est ce qu'il faut faire, mais il faut bien comprendre que ça n'est qu'un morceau.
Puisque tu l'évoques, les non supervisés, c'est ce qui a, à mon sens, le plus de dérives. J'ai en tête l'intelligence artificielle de Microsoft sur les réseaux sociaux. Mais donc, ça veut dire que là, la machine fait quoi ? C'est vraiment un flux de données qui lui arrive et qui est brut.
C'est ça.
Et sur lequel elle va avoir des assumptions ?
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? On peut faire qu'une seule chose quand il n'y a pas de... Enfin, dans les grandes lignes, on peut faire qu'une seule chose quand il n'y a pas de guide. On peut comparer les éléments que l'on reçoit les uns avec les autres. Et je parle, c'est la même chose pour les humains. Si je suis parmi les premiers humains, je suis un australopithèque, j'ai mon cortex visuel et j'aime bien trier les fleurs. J'aime bien les fleurs, on ne sait pas pourquoi. Les gens vont m'amener des fleurs. Ils vont m'amener des fleurs. Et moi, je ne sais pas, elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas... Elles sont là. Et donc, comment je vais faire ? Ben, je vais les associer par ressemblance. Je vais les associer par ressemblance, je vais en faire des groupes, et puis plus il en arrive, des fleurs, plus mes groupes ils vont grossir, et plus aussi je vais créer des sous-groupes très fins. Bon, là on n'a pas d'exemple, d'image, mais si on... En sciences naturelles, Linné, au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il a fait. Hein. Ce qu'on apprend à l'école, c'est des arbres avec toutes les on voit toutes les espèces, comment elles sont triées, etc. Bon, ben ça, c'est de l'apprentissage non supervisé fait à la main. Voilà. Donc, hein, on comprend bien. C'est-à-dire, on compare le mollusque à un poisson, on dit, OK, c'est pas la même chose, le poisson, il ressemble à ça, et on fait bon. La machine, elle fait exactement pareil. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle compare les éléments, les observations qu'elle reçoit entre elles, et celles qui sont proches, elle les regroupe, et celles qui sont pas proches, elle les écarte. Voilà. Et elle crée différents groupes. Et donc, elle crée ses propres classes. Elle crée ses propres groupes de chiens et de chats, quelque part. La complexité du monde, et notamment visuel, fait que il y a de multiples façons d'organiser les éléments. Hein, et il n'y a pas... Il arrive un moment où il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Voilà. Donc... C'est difficile, c'est une tâche difficile.
Ouais. Si on reprend un exemple simple, les chats et les chiens, donc dans cet exemple de non supervisé, j'envoie des chats et des chiens à mon modèle qui apprend de lui-même à faire la distinction entre les deux et finalement me les sort en deux catégories à la fin. Et elles n'auront pas de nom parce que pour lui, il met pas de nom. Mais par contre, il arrivera à terme, normalement, à exactement la même chose que le premier.
Plus ou moins, ouais, plus ou moins. C'est-à-dire quand même, alors oui. Dans le fond, il va arriver à peu près à la même chose. Néanmoins, comme il a pas de guidage, il va mettre plus de temps, il va demander un petit peu plus de travail et probablement un petit peu plus de données aussi. Mais enfin bon, tout ça, il y a pas de loi, disons là-dessus. Mais aujourd'hui, le machine learning est dominé par la puissance des techniques issues du supervisé, d'accord. Le non supervisé est en train de grandir et va arriver à surpasser le supervisé. Hein, c'est le but recherché aujourd'hui en recherche. Mais le supervisé est toujours un petit cran au-dessus.
Et qu'est-ce qui explique ça? C'est des problèmes de puissance de calcul?
Non, non, c'est le guidage. Hein. À partir du moment où on guide, c'est beaucoup plus simple d'aller dans la direction de référence pour détacher, pas pour écrire le programme automatiquement. Hein. Plus on a une spec, on peut le voir comme ça, plus on a une spécification détaillée, plus le programme va s'écrire vite et bien. Quoi. On
peut voir. D'accord. Par contre, plus on supervise et plus potentiellement on peut introduire de biais.
Les biais. Alors, c'est, bon, les biais sont présents dans les deux. Mais effectivement, alors, on peut introduire des biais avec des labels, bien sûr. Bien sûr. Le biais, bon, le biais, c'est un décalage entre une réalité, ou en tout cas une réalité mesurée, et la réalité telle qu'elle est. Bon. Le biais, il est présent dans les données, principalement. Cela étant dit, il peut être renforcé par les algorithmes. Voilà. Alors, pour donner un exemple de biais, vous les connaissez, hein. J'apprends à reconnaître les visages, j'ai récupéré des visages sur Internet, j'ai plus de visages de personnes à la peau plutôt blanche que de visages à la peau plus foncée, et donc mon algorithme, il marche mieux. Mon programme informatique final est appris automatiquement, il marche mieux sur des visages au teint clair que au teint foncé. Une erreur que ne ferait jamais aucun humain. Donc on voit bien là la difficulté de traiter avec ce système. Mais c'est pareil en non supervisé. Si je récolte en masse, c'est même presque pire, parce que je récolte en masse de la donnée non labellisée, et donc Internet étant utilisé peut-être plus, en tout cas en termes de volume de données, dans des pays plus riches que d'autres, etc., qui correspondent à des zones de la planète, etc., on a des biais tout de suite.
Donc tu veux dire que le biais en fait est introduit non pas au niveau du modèle, mais il est introduit déjà par le jeu de données qu'on lui donne.
Absolument. Ouais, fondamentalement, le premier grosse source de biais, c'est le dataset. Le deuxième, c'est que l'algorithme, lui, il y va sans se poser de questions, hein, évidemment. C'est une machine. Donc, il va pas améliorer la chose, quoi.
Clairement. Alors, ce réseau de neurones dont tu nous as parlé, c'est quelque chose d'un peu obscur pour moi. À quoi ça correspond? Comment je peux me le représenter?
Pour ceux qui ont un petit, ne serait-ce que même un petit savoir-faire en algèbre et en mathématiques linéaires, voilà, ça ne demande pas un gros investissement. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement, peut-être première année de fac, peut-être fin de lycée. Ça correspond à des produits matriciels. D'accord, c'est juste des matrices qui se multiplient à des vecteurs. Alors ça va. Il y a d'autres personnes, ça va pas aider. Donc l'autre façon de voir, c'est comme un programme informatique très peu spécifié, c'est-à-dire des fonctions. C'est des fonctions qui sont partiellement spécifiées, c'est-à-dire que on connaît le type d'entrée, mais les entrées c'est des trucs très larges, c'est des tableaux par exemple, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Les sorties c'est aussi des tableaux, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et à l'intérieur, ça fait des opérations qui sont spécifiées, mais dont les valeurs, donc un grand nombre de valeurs qu'on appelle les paramètres du modèle, alors c'est en millions, c'est en dizaines de millions, sont pas spécifiées. Ça, vous avez plein de variables qui sont pas spécifiées. C'est-à-dire que la valeur n'est pas donnée. Et donc, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va remplir la valeur de ces variables, de ces millions de variables, dans le programme informatique. Voilà. Ça, c'est une façon de se la représenter. Donc, c'est du code partiellement, très partiellement spécifié, et la machine vient le remplir. Mais elle vient pas le remplir avec du code comme on l'écrit nous, quoi. Elle vient le remplir avec des chiffres, des nombres qui s'additionnent, qui se multiplient, etc.
Alors moi, la vision que j'en avais quand on m'en parle, c'était plutôt un peu comme une sorte de table de mixage. Je ne sais pas si je vais te choquer en disant ça,
sur lesquels
on pouvait bouger un peu les boutons et voir le son qu'on avait en sortie et se dire là il est meilleur et là il est moins bon.
Tout à fait, c'est une table de mixage, mais je peux vous dire que la table de mixage de Dr. Dre à côté, elle est toute petite, quoi. Donc c'est une table de mixage avec 30 millions de petits boutons, quoi. 30 millions, quoi.
Et donc, moi, quand j'en ai entendu parler aussi, c'était, on apprend justement à régler ce réseau de neurones, mais comme je te l'entends dire, j'ai l'impression que aujourd'hui, on n'attend plus que ce soit la machine qui le règle.
Ah, c'est réglé par la machine, absolument. C'est pas réglé. C'est impossible à régler par un humain. Impossible. 30 millions de paramètres, c'est pas possible. Le nombre de combinaisons est complètement disproportionné.
Ouais. Donc, j'ai une table de mixage au milieu, j'ai un son en entrée, j'ai un son en sortie, et en fonction de comment les gens réagissent par rapport au son, je sais si je l'ai bien réglé ou pas.
Alors, c'est ça. Par exemple. Alors, par contre, ce que fait l'humain, c'est que la table de mixage, sa taille, sa structure. Alors, on parlait de, c'est un programme informatique avec des fonctions où l'intérieur est pas spécifié. Mais on peut dire que l'enchaînement de fonctions, il est, ce qu'on appelle l'architecture du réseau de neurones, il est spécifié par, en pratique, il est spécifié par un humain. Pour des considérations très simples, hein. Il faut que ça rentre dans la mémoire. Il faut que ça tourne, par exemple, en moins de 100 millisecondes, etc. Donc, on va forcer la machine à n'utiliser que, par exemple, 50 successions de fonctions. C'est un très grand avantage par rapport à l'écriture de code à la main via des langages informatiques. Parce que on peut contrôler la complexité du programme. Hein? Donc, plus je vais faire un programme énorme, c'est-à-dire un réseau de neurones énorme, plus je vais avoir tendance, si j'ai les données qui vont avec, à avoir une précision fantastique, c'est-à-dire un modèle qui fait très très peu d'erreurs, un programme qui fait des choses super, et plus je vais le réduire, plus évidemment mon erreur va augmenter un petit peu, parce qu'il a moins de capacité, il a moins de fonctions, il a moins de paramètres sur la table de mixage. Néanmoins, en faisant ça, j'ai fait un truc extraordinaire, c'est que j'ai réussi à contrôler graduellement la taille de mon programme. Ce qui n'est pas faisable normalement en informatique. Si on implémente un algorithme pour traiter une tâche, c'est très difficile d'en diminuer la complexité ou d'en augmenter la capacité. C'est très difficile. Si tous ceux qui ont eu à écrire un algorithme, on leur a dit « Ah mais ça, ce truc-là, il faut qu'il aille 5 fois plus vite. » C'est très difficile, c'est des heures et des heures et des heures passées. Tandis que là, il suffit de réduire la taille de la table de mixage pour que effectivement ça tourne dans le temps demandé, et puis on laisse la machine apprendre, quoi. Et puis on va perdre en performance, mais voilà. Et donc ça, c'est fantastique.
Est-ce que c'est cette table de mixage que j'utilise, enfin que je développe avec des frameworks tels que PyTorch ou TensorFlow?
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, PyTorch et TensorFlow, ce sont des frameworks qui comprennent les fonctions de base qu'on peut agencer comme on veut pour construire le programme informatique vide un peu à remplir dont je vous parlais. Et puis ensuite, l'apprentissage, ça fait par ces mêmes outils qui viennent apprendre les paramètres de ces pré-fonctions, quoi. C'est exactement ce que font ces frameworks.
Donc, on était aussi à parler de taille de modèle. Alors, j'imagine que la taille de ton modèle, tout comme un programme, si je suis ton analogie, plus mon modèle est gros, plus potentiellement il va consommer de mémoire, de CPU et prendre de temps pour être réalisé. Un modèle, c'est quelle taille en sortie, si on avait une moyenne à peu près sur un modèle? Si, par exemple, je devais avoir ce modèle qui est en mesure de trier les chiens des chats, est-ce que j'arrive à avoir un modèle de quelques kilos ou on est beaucoup, beaucoup plus haut en termes de taille?
Quelques centaines de cas à quelques mégas, et puis pour des gros modèles, on va être à 500 mégas, 1 giga, etc. Mais disons pour les chiens et les chats, aujourd'hui, bon, là c'est vrai qu'il faudrait que je regarde sur nos modèles à nous pour vous dire, mais on va être de l'ordre du méga. Ouais, bah, après ça se calcule assez simplement, hein, c'est le nombre de poids. Un poids, c'est un nombre codé en 32 bits, hein, sur une machine, donc on multiplie. Mais en millions, je peux vous donner une idée, c'est-à-dire que un petit modèle, ça va faire 1 million de paramètres. Bon, il y a beaucoup plus petit que ça, hein, bien sûr, mais disons 1 ou 2 millions de paramètres. Un modèle moyen, il va faire entre 25 et 45, on va dire 25 ou 30 millions de paramètres. Les gros modèles, ils vont commencer à faire 300 millions, voire quelques milliards, Et là, après, c'est des trucs dont on entend parler chez Facebook, Google, Amazon et autres, parce que bah, ça demande des ressources de calcul qui sont... Et donc un coût qui doit être à mesure de l'enjeu de ces choses-là. Mais encore, pour quelque chose là-dessus, qui est rationnel, hein, si on faisait faire la même chose par des humains, c'est-à-dire puisqu'on parle de code, de programme informatique créé automatiquement, si on embauchait des développeurs pour faire l'équivalent, déjà il nous faudrait 25 ans, et puis même on n'y arriverait pas, et ça coûterait beaucoup plus cher. Hein. Donc c'est pas idiot, hein.
C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas faisable, justement, humainement.
Complètement.
Et alors, une fois qu'on a entraîné un modèle, on a ce modèle qui fait quelques mégas. Ce modèle, il est utilisé dans une application. Alors, j'entends application au sens très très large. Et aujourd'hui, le machine learning, on le retrouve un peu partout. Alors, ça peut être une application où, justement, on a beaucoup de moyens de faire du processing, jusqu'à peut-être de l'IoT. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'on va mettre un modèle? Par exemple, si je voulais avoir une caméra dans mon jardin et qui m'envoie un mail à chaque fois qu'il y a un chat ou un chien qui passe et qu'elle me dise que c'est un chien ou un chat qui est passé, est-ce que le modèle est mis directement sur le hardware de cette caméra, par exemple?
Oui, tout à fait. On peut le faire même avec un Raspberry Pi, ça marche. Ça va pas être très rapide, mais t'as peut-être 2-3 frames par seconde, mais ça va fonctionner. Pour détecter s'il y a un chat ou pas, à moins que le chat il passe devant la caméra en 300 millisecondes, ça va suffire. Alors, il y a une raison pourquoi on voit les réseaux de neurones au plus proche des senseurs et pourquoi ça va être la tendance de toute façon. C'est que l'avancée est récente, hein, c'est les 10 dernières années, du machine learning, donc l'apprentissage profond, deep learning, c'est principalement le fait que ça a débloqué la capacité de traiter des données brutes. C'est-à-dire, on traite les pixels tels qu'ils sortent du senseur de la caméra. On traite l'audio tel qu'il sort du micro. Il n'y a pas de pré-processing, il n'y a pas de... Bon, voilà, l'algorithme travaille directement à partir des données brutes. Donc, ça fait sens de mettre l'algorithme au plus proche du senseur. Puisqu'on veut pas déplacer les données du senseur. C'est des données... dense, hein. Aujourd'hui, si on est capable de filmer à 60 fps en 4K, ça fait des gros volumes de données à transférer. On veut pas faire ça, surtout si c'est juste pour savoir s'il y a un chien ou un chat. On veut juste renvoyer un bit, 0 s'il y a un chien, 1 s'il y a un chat, peut-être 2 s'il y a rien. Hein. Et donc, on veut le faire tourner au plus proche du senseur.
Et donc là, ça veut dire que ces données-là sont même pas traitées dans le Edge, c'est directement dans le device. Mais tu as mentionné un Raspberry Pi, est-ce qu'on pourrait s'imaginer même encore plus petit et être vraiment dans l'embarquer?
Oui, alors il y a un domaine du machine learning aujourd'hui qui s'appelle TinyML. Il y a un très bon livre que je vous recommande, qui est à trouver, je pourrais vous donner les références. Donc TinyML, c'est pour faire du machine learning sur les microcontrôleurs. Cela étant dit, je suis obligé d'émettre un warning. C'est que le machine learning n'a pas bien fonctionné entre les années 80 et jusqu'à à peu près 2010. C'est pas que ça fonctionnait pas, c'est disons, il était encore bloqué. Il était bloqué par deux choses. Le manque de données, mais on le savait pas. Hein, le manque de données et le non-accès au calcul nécessaire. D'accord? Aujourd'hui on dispose en masse, grâce notamment à tous les gens qui jouent aux jeux vidéo, qui ont fait baisser le prix des GPU. Donc dans toute cette période de temps, le bloqueur c'est ça, manque de données, manque de calcul. Donc quand on se replace aujourd'hui en 2021 dans l'optique du machine learning sur les microcontrôleurs, on se ramène à ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA. C'est intéressant, il faut y aller, mais c'est quand même un sacerdoce quoi. Il faut pas se leurrer. La zone dans laquelle ça fonctionne bien, c'est une zone, voilà, qui commence un petit peu avec le Raspberry Pi, quoi. Un peu au-dessous, je sais pas, disons, dans les grandes lignes.
D'accord. Là, on parle bien d'utiliser un modèle et pas de l'entraîner.
Absolument. Absolument. Mais les deux sont liés. Parce que si j'ai pas de mémoire sur mon microcontrôleur, si j'ai très peu de mémoire, j'ai quelques cas de mémoire. Donc, donc mon modèle, il doit faire quelques cas. Donc, quand je l'ai appris, sa capacité d'apprentissage, c'est celle d'une mouche. Bon, donc j'ai appris à détecter des chiens et des chats avec le cerveau d'une mouche. Bon, super, mais c'est pas sûr que ça marche. Donc, il y a vraiment une relation intrinsèque entre taille du modèle et capacité d'apprentissage. Et elle existe aussi chez les humains. Hein. Dans l'évolution, alors elle n'est pas unilatérale, mais disons globalement, un grossissement du cerveau va avec de meilleures capacités. Alors c'est pas complètement vrai. Je crois que les humains un petit peu antérieurs à nous avaient un cerveau plus grand, mais pas constitué pareil. Mais disons voilà, hein, si mon modèle il fait 50K, il va pas être aussi bon qu'un modèle qui fait 1 méga.
Donc ce que tu me dis là, c'est que quand je veux faire un modèle et que ma cible, c'est un microcontrôleur, je vais devoir prendre en compte le fait que je développe un modèle pour un microcontrôleur.
Absolument.
Ok, j'avais pas imaginé. En fait, je pensais vraiment qu'on pouvait réutiliser n'importe quel modèle et l'utiliser presque out of the box.
Ah non, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut le distiller, c'est-à-dire on peut le prendre et essayer de intelligemment le rendre plus petit. C'est une opération que j'appelle la distillation, voilà, en rapport à l'alcool, hein, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de résultat garanti.
Aujourd'hui, si je veux utiliser du machine learning, est-ce que je suis obligé de créer mes propres modèles et de partir d'un dataset? Ou est-ce que je peux aujourd'hui trouver des modèles prêts à l'emploi pour différents use cases?
Oui, il y a des modèles prêts à l'emploi. Exactement comme le code informatique. Quelqu'un cherche à réaliser une application, sur open source, ou une application, sur GitHub, et il cherche le code le plus proche de ce qu'il veut faire. Ou le framework qui va lui permettre de programmer ce qu'il a envie de programmer, ce qu'il ou elle a envie de programmer. C'est pareil pour le machine learning. À toute tâche relativement universelle, il existe déjà des modèles, détecter des visages, des chiens, des chats, ok. Mais après, ces modèles ne correspondent qu'à son équivalent à des programmes informatiques. Hein. Donc, si je suis dans une industrie et que j'ai une tâche à réaliser pour une industrie particulière, je vais pas trouver de modèle sur étagère. D'accord? Je vais même pas trouver de dataset, d'ailleurs. Et donc, ce qui est normal, c'est du code informatique, c'est le code d'un programme spécifique, à une application spécifique. Donc, il va falloir que je la réalise. Voilà. Néanmoins, pour tout dataset existant, disponible publiquement, en général, il existe des modèles associés. Parce qu'il y a tellement de monde sur le net, et il y a tellement de données, etc., qu'en général, ça a été fait. Voilà. Sauf quand ces modèles demandent tellement de calculs que le coût est prohibitif pour qu'ils soient distribués.
Avant que je te demande différents cas d'usage aujourd'hui du machine learning, j'ai une question sur ces modèles et sur leur durée de vie. Parce que jusqu'à là, on a parlé beaucoup d'images, de reconnaissance de pixels. On est bien d'accord que presque chaque année, on a des meilleurs appareils photo qui nous permettent d'avoir des photos de meilleure qualité. Donc, on augmente le nombre de pixels, ce qui peut rendre très vite un modèle obsolète. De la même manière, les GPU montent en gamme et donc sont capables de processer un modèle beaucoup plus rapidement. Donc, j'imagine que un modèle qui a 4 ans doit friser l'obsolescence aujourd'hui si je veux le réutiliser.
Je vais reprendre mon analogie, parce qu'en fait, rien n'est nouveau. C'est comme les programmes informatiques. Donc, si j'ai une version de mon programme qui a 4 ans, n'importe quel geek va chercher, il ou elle, encore une fois, à mettre à jour à la dernière version. Voilà. Bon, ça, c'est la réponse. C'est à peu près pareil pour le réseau neuronal. Néanmoins, s'il y a des tâches qui sont indépendante de la résolution de l'image, quand on parle pas de l'image, parce que c'est tableau plein de choses. Donc, par exemple, la détection d'un visage, bon, c'est relativement indépendant de la résolution. On peut augmenter la résolution, ça ne rendra les choses que plus faciles. On peut faire plus, plus moins. Donc ça, ça n'a pas trop d'incidence. Mais il y a des types de modèles ou des types, disons, d'applications qui, elles, sont beaucoup plus dépendantes. Tout ce qui va traiter de la modération des contenus automatiques sur les réseaux sociaux, par exemple, va être sujet à des modifications du langage, des événements courts mais en volumétrie important, des mouvements, Black Lives Matter, plein de choses qui vont faire que le modèle va être obsolète sur des recoins de ce qu'on appelle l'espace des possibles, c'est-à-dire de tout ce qui peut être dit sur la planète. Un modèle qui cherche des trucs racistes pour les enlever, ben, il aura toujours des recoins qui vont permettre à des gens de faire passer des messages, etc. Et donc effectivement, il y a ce type d'obsolescence au même titre qu'un programme informatique. Voilà, alors c'est une obsolescence par rapport aux données, hein, en général, c'est-à-dire que dans le jargon, on dit que la distribution des données se déplace, c'est-à-dire que le type des données change en continu, hein, et que donc à un moment donné, il faut remettre les modèles à jour. Un petit peu.
Disposer d'un modèle, en fait, c'est pour une courte durée, il faudra avoir un modèle qu'on puisse mettre à jour très régulièrement. Les personnes qui aujourd'hui vont consommer des modèles dans des librairies, dans leur code, justement, ont des modèles qui vont être mis à jour, ou est-ce que dès le moment où on s'imagine en tout cas vouloir utiliser du machine learning, on va devoir, à un moment ou à un autre, devoir créer son propre modèle?
Ma réponse, c'est pour toutes ceux et celles qui ont moins de 50 ans, il faut apprendre à faire ses propres modèles. Hein. Ce n'est que la façon de programmer automatiquement, c'est-à-dire que le programmeur se décale, hein, se met un petit peu en retrait du langage de programmation et se sert de la machine pour créer ses propres programmes. Donc oui, il faut apprendre à faire ses propres modèles. C'est encore une science, une technicité un peu jeune. Bon, en science, en application, c'est encore un peu jeune. Donc, il y a un peu de temps, et voilà. Mais globalement, c'est l'évolution naturelle. Hein. On va pas tous continuer à coder dans ces langages de programmation autant qu'on puisse les aimer. On sent bien que c'est très limité ce qu'on peut faire. Ça paraît dément ce qu'on peut faire, mais c'est pas si dément que ça. Hein, quand on voit ce que la machine arrive à faire en apprenant à partir d'images ou de textes, on se rend bien compte qu'on n'est pas très bon, hein, que à programmer la machine. Donc il faut absolument apprendre à faire ses propres modèles.
Oui, on n'est pas très bon, en tout cas dans certains niveaux du code. Donc typiquement, hier on utilisait des regexp pour rechercher une expression quelque part, et on a vu la difficulté de faire cette regexp, de l'entretenir parce que justement on a toujours des cas qu'on n'a pas prévus, etc., etc., et d'avoir quelque chose de très inefficace au final parce que c'est très long à processer. Alors aujourd'hui, justement, le ML, c'est un peu buzzword et c'est utilisé, j'ai l'impression, dans pas mal de choses. On en parle beaucoup autour de l'imagerie notamment et autour peut-être des voitures autonomes, mais est-ce que tu as d'autres exemples peut-être plus inattendu ou simplement assez quotidien et pour lesquels on s'en doute peut-être pas d'emploi du machine learning?
Oui, bien sûr, on va s'utiliser partout, hein, parce que c'est du programme informatique écrit automatiquement, là où il est difficile de les écrire. Ça j'aurais bien martelé. Donc en gros, le texte, hein, énormément utilisé pour le texte. Quasiment tous les moteurs de recherche aujourd'hui que vous utilisez, Google, Bing, tout ça, derrière c'est du machine learning. D'accord, votre requête est processée par un réseau de neurones, le contenu du web est traité par des réseaux de neurones, le tout est mis ensemble pour vous donner une réponse, et vos clics ensuite sont processés par des réseaux de neurones, la pub qui s'affiche est décidée par un réseau de neurones, votre clic sur la pub est pris par un réseau de neurones, et la vidéo sur YouTube, hein, qui est recommandée à suivre, est elle aussi produite par un réseau de neurones ou approchant, d'accord. La page de Netflix et la couverture que vous est montrée pour chacun des films diffèrent pour vous ou pour moi. C'est une image qui est prise dans le film, par exemple, ou c'est une des différentes jaquettes, etc. L'ordre, tout ça, c'est produit par de l'ordre de 150 modèles de machine learning. Donc, on est, le futur et le présent, c'est quoi? Ce sont des applications construites par des équipes de programmeurs et de programmeuses et d'ingénieurs qui agencent du code, on va dire, traditionnel avec des modèles et qui mettent ça de façon rationnelle ensemble pour créer des applications qui n'étaient pas possibles à faire avant. D'accord? Alors, pourquoi c'était pas possible? Si on prend la première page de Netflix, parce que il faudrait que le code il marche pour les millions d'abonnés. Ah, mais lui, ce qu'il aime, c'est ça. Alors, il faut que je rajoute if quelque chose quelque part. C'est pas possible. Donc, c'est traité par la zone d'ordre. Donc, voilà certains exemples. Dans les trucs plus inattendus, pour les ingénieurs un peu plus bas niveau, il y a des papiers sérieux depuis plusieurs années, notamment chez Google, d'utilisation du machine learning au sein même des compilateurs. D'accord? Parce que dans les compilateurs, en fait, quand vous compilez du code, il y a plein d'heuristiques, c'est-à-dire il y a plein de choses qui sont faites au doigt mouillé. Hein. Ah, on va passer par là, là on va brancher le code, on va le passer là, ta ta ta, on va faire telle instruction, etc. Bon. Et en fait, on peut le faire avec du machine learning. Ce qui est normal, hein, ça correspond à faire un bout de code plus efficace à un endroit. Donc c'est vraiment partout où il y a du code, il va y avoir du machine learning. Enfin, c'est-à-dire du machine learning. Des bouts de code générés automatiquement via le machine learning.
C'est assez impressionnant. Donc, ça veut dire que si Netflix n'était fait que pour moi, ça aurait été simple de faire un code pour moi, et encore, il y aurait quand même eu pas mal de boucles et de conditions. Mais dès le moment où, en fait, on passe à l'échelle, parce que tous les exemples que tu nous donnes, finalement, c'est grande échelle, bon, j'imagine que, comme tu l'as dit, c'est la quantité de la donnée qui va nous permettre de créer des modèles qui sont valables. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait à grande échelle va passer de près ou de loin dans la moulinette du machine learning.
C'est déjà le cas. Donc, regardez, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Oui, c'est déjà le cas. Par exemple, si vous êtes connecté à Google et vous faites une recherche à partir d'une machine Linux dans un quartier UP d'une grande ville française, pour l'algo de machine, le modèle de machine learning derrière, vous êtes un ingénieur, globalement. Sinon, vous seriez sur Mac. Et du coup, toutes les pubs, même les prix des choses qui vont vous être affichées sont modulo votre localisation, votre navigateur et votre profession estimée. Voilà, donc tout y passe. Et ça pose plein de questions, mais tout y passe. Alors, ça, c'est pour la donnée en masse. Alors, il y a des expériences à faire qui sont rigolotes. Vous engage à essayer, vous prenez Netflix. Alors, c'est pas déterministe, hein, ce que je vous dis, c'est à jouer, quoi. Prenez Netflix, vous ouvrez un nouveau compte, de zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de, moi, je l'ai fait, j'ai ouvert un compte pour mon père. Ah, okay, j'ai ouvert un compte pour mon père. Ce que ça va vous recommander, globalement, hein. Alors, moyennant, moi, je suis pas chez Netflix, hein. Bon, j'ai discuté pas mal avec eux, mais je suis pas chez Netflix. Globalement, ça va vous recommander la moyenne en France pour votre localisation, le navigateur, etc. Alors ça m'a fait marrer parce que quand j'ai ouvert le truc pour mon père, ça a recommandé que des mangas, quoi. Moi je regarde pas trop, donc ça venait pas de moi, quoi. Et ce n'est que des mangas, enfin une grande partie truc, bon. Et donc j'ai été obligé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai démarré le compte. Je suis allé cliquer sur des trucs que je sais qu'il aime pour pouvoir démarrer l'algorithme. Alors, il y a un deuxième moyen de vous en rendre compte, ça je vous le donne, parce que tout ce qui est comme tout est basé maintenant sur le machine learning, ça peut se voir. Alors, si vous créez un nouveau compte Tinder, par exemple, ou autre, hein, truc de rencontre ou approché, et vous vous servez pas de l'application, faites-le exprès, vous servez pas de l'application, ou très peu, et ben vous allez recevoir des messages permanents en vous disant « Ah, your profile is on fire, c'est super, tu cartonnes, le truc, vas-y, clique, continue à cliquer, etc. » Pourquoi ? Parce que l'algorithme, il n'a pas de données. Donc, il ne peut pas faire prédiction. Et donc le premier intérêt de toute cette startup, etc., c'est en franglais, c'est seeder, to seed, c'est de donner la donnée de démarrage pour pouvoir initier l'algorithme et qu'il puisse accrocher en quelque sorte et commencer à vous rattacher aux autres. On parlait du non supervisé, rattacher aux autres pour pouvoir commencer à vous prédire des choses. Sinon, il prédit la moyenne, donc il vous donne ce que tout le monde regarde, quoi. Voilà un peu. Et ça se voit, hein, quand vous faites du machine learning et vous interagissez dans la société d'aujourd'hui, ça se voit, quoi.
D'accord, ce qui est d'un certain point de vue un peu inquiétant, parce que là où hier, en fait, ma navigation sur Internet on ne pouvait pas me connaître parce que justement, faire la programme qui aurait permis de savoir mes goûts, savoir où j'avais cliqué, à quel moment exactement, comment je réagis à une pub, en combien de temps j'y réagis, et toutes des choses que j'arrive même pas à me représenter, qui peuvent, elles, entrer, comme tu l'as dit, dans un modèle qui fait plusieurs milliards de neurones. Ça veut dire que aujourd'hui, surfer sur Internet, c'est envoyer énormément de données qui vont être analysées pour me connaître exactement.
Voilà, alors bon, il ne faut pas avoir peur du monde présent. Hein. Ce sont des innovations qui sont relativement intéressantes. Le futur de la relation homme-machine, c'est pas de taper sur un clavier en écrivant des if et des en. C'est ce que ma génération elle a apprécié, mais c'est pas le futur. Le futur, c'est on va parler très probablement. Moi, je pense qu'on va parler à la machine, etc. Bon. Donc, qui dit interagir, qui dit parler, disait bon, on va laisser passer des données. Bon, ensuite, sur les données sur Internet. Donc, il y a des moyens de se protéger. Bon. Ça c'est bien, Firefox, AdBlock, tout ce que vous voulez. Il y a des avancées au niveau de l'Union européenne. Il y a des super gens qui font des trucs fantastiques, la quadrature du net, tout ça. Bon, ben voilà, vous allez les aider. Ça c'est très bien. La dangerosité, elle est à prendre avec des pincettes. Il y a des trucs qui sont dangereux et des trucs qui sont pas dangereux. Qu'est-ce que l'algorithme d'Amazon y connaît par rapport à ma consommation? Bon, il sait probablement, ça c'est un grand mot, hein, mais disons, le nombre d'enfants que j'ai peut-être, des choses comme ça, si j'ai un chat ou pas, Ok. Est-ce qu'il en sait beaucoup plus que ça? Est-ce qu'il sait mon caractère? Est-ce qu'il sait quand est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il sait mon niveau physique? Non. Non. On ne définit pas un humain par des données qui streament de l'Internet. D'accord. Croire ça, c'est se rabaisser à un niveau, c'est plus complexe que ça. Voilà. Donc moi, j'ai pas de peur fondamentale. Il y a des choses qui sont pas bien, qu'il faut sur lesquelles regarder, tout ce qui est surveillance, etc. Bon, nous, par exemple ici, on en fait pas parce qu'on apprécie pas ça. Mais au-delà de ça, voilà, il faut garder un œil dessus, il faut réguler. Il y a un effort politique, il y a un effort de société, etc. Mais au global, ces technologies sont relativement fantastiques. Le fait de pouvoir créer des programmes automatiquement qui font des choses que les humains peuvent pas faire, ça va transformer la vie de tout le monde de façon incroyable. Enfin, et même en termes d'emploi, évidemment, il va y avoir des creux, des gens qui vont être remplacés, il y a des métiers qui vont disparaître, hein, mais ça va rendre le travail de l'humain en fait beaucoup plus intéressant. Ça va enlever encore, comme d'autres automatisations, un nombre de tâches complètement dont on veut vraiment pas, quoi. Enfin, je sais pas s'il y en a qui en veulent, mais il y a plein de tâches que je préfère que la société fasse pas, quoi. Et on va pouvoir se reconcentrer sur d'autres choses.
Oui, c'est vrai de chaque bon technologique. Il y a toujours des bons et des mauvais aspects. Alors, explique-moi un peu ce que tu fais justement à Julie Brain.
Ce qu'on fait. Alors, pour ceux qui sont suffisamment âgés pour avoir connu, nous, on est l'agence touriste du machine learning.
D'accord.
Donc, la dernière chance du moment, comme disait le générique.
Et tu es lequel?
Alors moi je suis Hannibal avec le cigare. Mais on a Looping. Vous pouvez faire un podcast avec Looping si ça vous dit. Ça sera encore plus intéressant qu'avec moi, ça je peux vous dire. Et donc nous on est là pour traiter en fait les problèmes qui n'ont pas de solution aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que en fait le machine learning ça sert à deux choses. Ça sert à automatiser des tâches qui sont réalisées de façon récurrente par les humains. Donc, par exemple la modération de contenu, hein, enlever les propos racistes, etc. Vous avez plein de gens qui le font, qui le font encore, mais bon, globalement, il y a une grande partie qui est prise par des machines, et ça va avec la croissance des réseaux sociaux, des échanges entre humains. Les échanges entre humains, c'est génial, et en gros, il faut polisser un petit peu tout ça, polisser au sens avec deux S, hein, pas avec la police, et ça va être fait par des machines. Donc voilà, ça c'est automatiser des tâches pénibles qui sont faites par les humains, une passée à l'échelle. Bon, ça c'est une classe de choses. Il y a une deuxième classe de problèmes qui sont débloqués par le machine learning, qui sont ceux que nous on traite, qui sont les choses qui étaient impossibles à faire avant. Il y en a plein. Bon, passer les détails, c'est des trucs très industriels en général, mais vous pouvez faire voler des avions ensemble comme des canards pour qu'ils consomment moins de carburant. Vous pouvez détecter l'usure. Des fils caténaires sur les lignes de train. Vous pouvez transformer en réalité augmentée des objets en un autre de façon quasiment invisible à l'œil nu, c'est-à-dire que l'œil peut même plus faire la différence. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça qui étaient des choses qui n'étaient même pas faites par des humains avant. Hein, des déblocages. Et comme voilà, bon, la voiture autonome, c'est un peu entre les deux, par exemple. Hein, c'est-à-dire, les humains, ils conduisent, et on essaie de leur faire faire par la machine. Hein, donc c'est un peu entre les deux. Mais il y a des choses qui étaient juste impossibles à faire avant. Le Go, hein, il n'y a jamais personne qui a réussi à faire un algo qui battait tous les humains au Go. Ben maintenant, vous avez un système qui bat tous les joueurs du monde jusqu'à la fin des temps et tous les joueurs d'échecs aussi jusqu'à la fin des temps.
Et comment ça se passe? Alors, je viens te voir avec un projet de quelque chose qui n'existe pas, parce que ce que tu me dis là, c'est comment je pourrais savoir que, par exemple, faire voler des avions l'un à côté de l'autre en vol de canard. Bon, d'accord, en dynamique, tu pourras toujours me dire que j'aurais pu le prévoir, mais en fait,
quelque chose. Ce sont les gens du métier.
Quelque chose, en fait, qui n'existait pas, un usage qui n'existait pas, il faut déjà avoir cette idée de se dire que la manière dont on fonctionne aujourd'hui ne va pas. Et par exemple, dans ce qui m'entoure, en fait, tout me paraît normal et j'ai pas forcément d'idée de me dire la façon dont c'est fait là, c'est pas optimal. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas ingénieur peut-être non plus. Et donc je viens avec toi quand même avec une idée en me disant, tiens, j'ai remarqué que quand il se passait ça, ça me paraît pas optimal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer?
Nous, on n'a aucun crédit pour ces idées-là. Ce sont que des gens de leur métier respectif qui viennent avec ces idées-là. Nous, on a vraiment zéro crédit. Nous, on aide juste à réaliser. Donc, il y a des gens dans tout métier, c'est normal, qui disent, bon, aujourd'hui, on vérifie la qualité des fils du réseau de train français à 20 km/h. Il y a 35 000 km de voie. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Est-ce qu'on peut accélérer? Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur comment on accélère. Et puis, à un moment, ils arrivent à un niveau où ils sentent qu'ils peuvent pas programmer le truc. Donc, ils sentent qu'il va falloir, donc, ils ont déjà l'intuition qu'il faut du machine learning, etc. Et donc, ils vont venir, par exemple, nous voir. Mais donc, nous, on n'a pas vraiment de crédit sur ces vues-là. Il arrive que dans la conversation, le projet change un petit peu. Ça, c'est une des caractéristiques inhérentes du machine learning. Alors très souvent, l'interlocuteur va être ce qu'on appelle un data scientist. Alors ça, data scientist, alors, c'est intéressant, c'est un nouveau poste qui ne va pas durer très longtemps, parce que c'est un statisticien relativement moyen et qui est un programmeur relativement moyen aussi. Mais il est nécessaire, cette personne est nécessaire pour faire le lien entre les deux. Alors, c'est pas du tout négatif ce que je dis, c'est juste qu'il y a des postes comme ça qui sont temporaires. On va maintenant vers machine learning, ingénieur machine learning, machine learning engineer, machine learning Ops, MLOps, hein, qui sont des un peu plus différenciés. Mais le machine learning, comme l'écriture de programmes informatiques traditionnels, ça va de pair avec les gens du métier auquel c'est destiné. Il faut comprendre ce que les gens du métier font pour pouvoir leur être d'une véritable utilité. Et ça prend pas mal de temps. Il faut aller comprendre le métier, comprendre les données, etc. C'est quelque chose d'éminemment humain, mais vraiment éminemment. C'est-à-dire, il faut aller les voir, là où ils travaillent, les équipements, pourquoi c'est bruité, pourquoi c'est difficile d'avoir des données, etc. Quand on n'y va pas, on se rend pas compte. Hein. Donc ça, c'est vraiment un élément très important qui est sous-estimé. C'est pas l'automatisation et l'apprentissage des modèles, ils marchent, mais la spécification, la formalisation, le mettre au bon endroit, comprendre les contraintes, ça se fait en discutant avec des gens d'un autre métier. Et c'est ça qui est chouette.
Emmanuel, merci beaucoup. En tout cas, c'était super intéressant.
Avec plaisir. Merci à toi.
Retrouvez Emmanuel sur Twitter @pilouche et Jolibrain sur jolibrain.com.